Allez, bon, on est à la paracha de Vaïgash, en même temps, voilà, nous venons de sortir il y a quelques minutes de la fête de Hanouka. Alors, c'est pas le moment de revenir sur Hanouka, mais on va essayer quand même de dire quelque chose qui est lié à Vaïgash, à toutes ces parachiotes. Vaïchev, Miketz, Vaïgash. Et en même temps, Hanouka. Vous avez remarqué que dans pas mal de communautés, on a l'habitude de lire le psaume 30 à Hanouka. Mizmor. Chez Hanouka Tabaït le David. D'ailleurs, certains, pas tous, font l'effort de dire ce premier verset. D'ailleurs, je ne sais même pas, ça serait intéressant que je fasse une recherche, pourquoi on le saute normalement. Mais ce premier verset, Mizmor, chez Hanouka Tabaït le David, et nous, on commence par Arom Imcha Hashem. Sauf que pendant Hanouka, on dit ce Mizmor. Pourquoi ce Mizmor? À la rigueur, à Purim, c'est la Matzer à la Yelet à Shachar. Là-bas, on voit, il y a plusieurs références, comme quand on fait la Megillah, la nuit, le jour, Ayelet, Ashachar, c'est un des surnoms d'Esther. Alors, chaque mizmor, à la rigueur, il y a une raison dedans qui va le lier à la fête. Soukhot, on va lire que le mizmor, Ke'ayal ta'arog ala fike mayim, Ke'navshi ta'arog elecha elokim, c'est notre désir de monter vers toi. Le Rosh Hashanah, on va faire la Matzer à la Gititiv Nekorach mizmor. Le mizmor qu'on lit le jeudi, parce que là-bas on parle de Chok et Mishpat, on parle de justice. Chaque mizmor qui est lié à une fête, il doit avoir un lien avec la fête. Si vous regardez le mizmor, ce psaume 30, il n'a aucun lien avec la fête, si ce n'est cette première phrase que l'on saute tous les jours, Mizmor Shir Chanukah Tabaït le David. Donc c'est David Amelech qui écrit sur l'inauguration du temple, sur Chanukah Tabaït, à laquelle lui n'a pas assisté. Puisque c'est son fils qui l'a construit. Donc lui a toujours rêvé de le construire, mais pour X raisons, n'est jamais passé à l'acte. Alors que c'est son fils Salomon qui l'a construit. Et donc, on se met à la place de David Améler. David Améler qui écrit Mizmor Shir Chanukah Tabaït. Voilà le chant que j'ai écrit, que j'ai composé pour l'inauguration du temple. C'est un peu comme le Chavetz Chaim sur lequel on racontait. Qu'il avait déjà prévu son costume, qu'il n'avait jamais touché dans son armoire, pour quand le Mashiach viendrait. C'est-à-dire qu'il y a des gens voilà, qui attendent les choses, qui se mettent déjà en condition. J'attends pas que l'événement arrive, je me prépare, j'ai tout, et dès qu'il arrive, ça y est, je sors la cam. David Améler a tellement rêvé du temple, qu'il a fait déjà le mizmor pour la fête. Il s'est déjà projeté dans la fête qu'il va avoir. Et... Bon, c'est très joli, c'est très beau, c'est touchant. Mais le problème, c'est que quand on lit le reste du mizmor, il n'y a plus rien à voir avec le temple. On ne parle ni des portes, ni des corbanotes, ni du feu, ni du haron, ni du Kodesh HaKodashim. Il n'y a rien, rien qui est lié au temple. Alors, c'est quoi ce mizmor? C'est juste, on le lit à Hanouka parce que c'est marqué chez Hanouka Tabaït le David. Alors, comme je vous ai dit, on va faire essayer de faire simple. Mais quand même, il y a certaines phrases qu'il faudrait relever. D'accord? Parce que, en fait, il y a des phrases qui font référence à l'histoire, vous l'avez compris, à l'histoire de Yosef dans ce mizmor. Il y a quelqu'un? C'est ça.
J'ai peur.
Ouais.
Mais
je suis. Et donc je dis, regardez, dans ce mizmor, je vais juste relever quelques phrases. Déjà, il commence comme ça. Tu vois, regarde, ça c'est pas d'après Rabbi Yosef. Même à Hanouka, on ne dit pas le verset mizmor chez Hanouka Tabaït le David. Mais chez les Marocains, ils le font. Alors, il commence par Aromimcha Hashem qui dit litani. Aromimcha, les Romains, je vais t'élever Hashem qui dit litani. C'est quoi dit litani? C'est puiser. Un dli, c'est un seau qui va servir à puiser l'eau dans le puits. Je vais t'élever Hachem, qui dit litanie, car tu m'as élevé du fond d'un puits, on comprend. Velosi marta oivaili. Et tu n'as pas réjoui mes ennemis contre moi. C'est deux choses complètement différentes. qui dit l'itani vlossi martoi veili. Je saute un verset. Hachem, he elita min sheol nafshi. Encore une fois, Hachem, tu as he elita. Tu as fait monter min sheol, du sheol, l'abîme, nafshi, mon âme. Chiyitani miyardibor. Tu m'as fait vivre au lieu de me laisser descendre dans le puits. Quel puits ? C'est quoi cette histoire ? Je saute encore plusieurs versets. À un moment donné, David Amelech, il dit. Ma betsa bedami beriditi el shachat. Voilà. Ma betsa bedami beriditi el shachat. David Amelech, il dit à Hachem, ma betsa bedami, mais quel gain, qu'est-ce que tu gagnerais, quel bénéfice y aurait à faire couler mon sang? Ma betsa bedami beriditi el shachat. En me faisant descendre dans le fond, Hayodcha afar, est-ce que la poussière va te remercier? Ayagid amitecha, est-ce que cette poussière dira des vérités sur toi? Alors Hachem, Shemachoneni, bon, écoute-moi et pitié de moi. Afarta mispedi le macholi, puis Tartasaki, regardez, à la fin il dit Afarta mispedi, tu as inversé mon horizon funèbre, normalement ça aurait dû être mon horizon funèbre, mais tu l'as rendu machol, tu l'as rendu une danse. Puis Tartasaki, tu as ouvert mon sac. Vaté à Zereni Simcha et tu m'as ceinturé de joie. Quel sac on parle ? C'est quoi ? C'est l'histoire de quoi David Amelech parle ? Alors, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous balader à travers les différents psukim. Laura Forman, il y a un chapitre dans son livre qu'il a écrit sur Yosef, passionnant sur ça, et il le fait avec brio. Il ramène tous les versets. Mais en fait, ici, on a un David Amelech qui descend de Yehuda et qui est en train de s'identifier et vivre dans la peau de son aïeul, de Yehuda. Sur quelle histoire, sur quel épisode de sa vie, parce qu'il en a eu plusieurs, sur l'épisode de l'histoire de la vente de Yosef. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, on avait parlé effectivement de la critique qu'on pouvait émettre sur les frères de Yosef à travers leur façon d'agir. Mais de l'autre côté maintenant, Vaïgash, et là, dans la paracha de Vaïgash, on nous parle du discours que Yehuda a fait. Yosef a voulu voir jusqu'où Yehuda a fait tshuva. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est très ambigu. Les frères sont prêts à le tuer. D'abord, première étape, on fait couler son sang. Aucun scrupule. Chayav, Mita, ils étaient sûrs qu'ils étaient dans leur droit. Donc, on va le saigner. Au début, c'était ça l'idée. Sur ces Réhouven arrivent. Et eux, il va les faire réfléchir. Il dit, non, mais attends, pourquoi on va saisir les mains? On ne pourra plus dormir la nuit. Non, pourquoi? Venez. Au cas où, vu qu'on est ses frères et qu'on l'a jugé, donc il sentait quand même un petit malaise de manque d'objectivité, Réhouven, il dit, venez, on le laisse mourir. Et d'accord, il va mourir. Vous avez raison, il est trop gênant, il ne peut pas continuer comme ça, c'est un illuminé, il faut s'en débarrasser, mais pas nous. Laissons Hachem faire les choses. Jetons-le dans le puits. Donc Réhouven, c'est un dossier, parce que lui, il avait l'intention de revenir, de récupérer, etc. Une fois dans le puits, il était condamné aussi, parce qu'il pouvait personne n'allait le remonter de là-bas. Là, c'est Yehuda qui intervient et qui dit « Ma betsa, ki naharog et achinu vechisinu et damo. » Qu'est-ce qu'on va gagner de tuer notre frère? Les Réhouvenim kerenu la ishmelim, vendons-le à ces commerçants qui sont en train de passer, etc. Et tous les frères écoutent. Et en fait, en fin de compte, on le sort. Et là, il se passe quelque chose d'ambigu. Parce que d'un côté, ils le vendent. Alors, je ne sais pas si vendre un frère, c'est moins bien que... Ou c'est pire, moins pire que de le tuer. Vendre un frère, c'est quand même s'en débarrasser. C'est casser la fraternité. Et donc, à ce moment-là, il se passe quelque chose où d'un côté, toute l'histoire est rendue possible par le billet de Yehuda. D'accord ? Parce que sans ça, ou bien il l'aurait saigné, ou bien il l'aurait laissé moisir dans le trou. D'accord ? Mais dans les deux cas, Yosef aurait disparu. Si Yosef disparaît, il n'y a pas de roi en Égypte, il n'y a pas de peuple qui descend, il n'y a pas de peuple qui sort d'Égypte. Donc, il n'y a pas de 10 commandements, il n'y a pas de peuple juif, tout simplement. Donc, c'est lui qui permet ça. Mais c'est très bien, mais quand même, mais vendre son frère. Donc il dit, si on m'écoute, On aurait pu m'écouter, voire même plus que ça. J'aurais pu peut-être même annuler le décret, en disant, faire appel à la décision qu'on avait prise. Maintenant, 22 ans après, lorsqu'ils sont devant Youssef, donc Youssef, lui, n'a qu'une chose en tête. Il veut voir si ils ont fait tchouva. Maintenant, qui c'est qui va voir s'il a fait tchouva? Le seul, on va dire, qui nécessite cet examen de la part de Youssef, c'est celui qui l'a sauvé. C'est-à-dire qu'il n'attend pas de ceux qui ont pris la décision de le saigner ou de le laisser mourir. Il n'attend pas d'eux quelque chose de véritablement renversant. S'il y en a un qui peut faire tchouva, c'est parce qu'il a vu les choses avec un peu plus d'objectivité, de brillance, d'intelligence, d'équité. Et donc c'est de lui qu'il faut attendre. Et donc c'est de Yehuda. Et c'est pour ça qu'il rentre en discussion. Déjà, il voit que Yehuda se démarque. Donc il dit, je prends Binyamin. Et là, il voit, donc, il est dans la même situation. Normalement, on attrape Binyamin avec la coupe dans le sac. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Normalement, Yosef dit, Khayav Mita. Quelqu'un qui vole le roi, on le tue ici. Bon, Yosef tout de suite dit, vous savez quoi? Je me suis bien levé ce matin, je ne vais pas le tuer. Je vais juste le garder en tant qu'esclave. Il va les remettre dans la même situation. Regardez, on devait le tuer. Non, en fin de compte, on va le garder esclave. Et c'est le seul fils de Rachel. On va voir maintenant comment il va réagir. Et qui c'est qui sort? Le même, Yehuda. Non, tu veux le prendre en tant qu'esclave, tu me prends moi comme esclave. Et là, il commence son discours, rempli de rigueur, de douceur, de diplomatie, de menaces. Et c'est ce qui va faire craquer Youssef et qui va véritablement à la fin se dévoiler son identité. Et on voit jusqu'à la fin de sa vie, Yaakov, on ne sait pas, est-ce qu'il est au courant, il n'est pas au courant. En tout cas, Yaakov à plusieurs reprises. Par exemple, regardez, sur Shimon et Lévi, je veux dire, Shimon et Lévi sont des violents. Kele Hamas Mecherotehem. Leurs armes sont des armes de violence. Comment il appelle une arme? Mecherotehem. Milashon Mechira. Mechira veut dire vendre. Yaakov sait, à la fin de sa vie, il y a plein de mots comme ça qui lui échappent, qui fait dire qu'il savait l'histoire. Qui be'apam argouish ou birtsonam ikerushor. Il dit dans la parasha de Vayechi, il dit par leur colère, ils ont tué un homme. Ou be'apam, et dans leur nervosité, ils ont déraciné le shor, le taureau. Qui c'est le shor? Rashi dit, c'est Yosef. Donc Yaakov sait. Et quand il arrive tout de suite après, et en plus c'est Shimon et Lévi, et comme Rashi le confirme, c'est Shimon et Lévi à la base les plus virulents, comme ils ont toujours été avec Shrem, etc. C'est pour ça que quand ils arrivent, il va emprisonner Shimon pour le séparer de Lévi, afin d'atténuer, de diminuer la violence. Ensuite, quand Yaakov va arriver à la fin de sa vie à bénir Yehuda, il dit, toi, tes frères vont te remercier. Et il dit, mi teref beni alita, tu es monté de teref, après avoir dévoré. Et il le compare à un lion, le lion qui protège les siens, à l'intérieur de la maison et qui le protège des ennemis de l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire à travers ça, en fait? Ce mizmor est truffé de mots qu'on retrouve dans le cadre de l'histoire de Youssef, où David Ameler, descendant de Yehuda, il remercie Hachem sur le privilège qu'il a de descendre de cet homme-là, qui a eu le courage de dire à ses frères, non, on le sort, on le vend. Ou qui a eu le courage, 22 ans après, de dire, j'ai fauté, je ne ferai pas la même bêtise deux fois. Et on le voit à la fin. Bon, il y a plein de mots. Je ne vais pas vous embêter avec les mots, mais regardez, juste à la fin, on dit... Puis Tartasaki, tu as ouvert mon sac.
C'est quoi ce sac?
C'est le sac de Binyamin. C'est le sac de Binyamin. Vate Azrin Simcha. En fin de compte, l'histoire de ce sac a permis à Yosef de se dévoiler. Lemaan Yezamecha Kavod Veloidom, afin que mon âme chante Veloidom et ne se taise jamais. Hachem Elokai Leolam Odeka, Hachem mon Dieu, éternellement je te remercierai. En fait, dans ce mizmor, David Ameler fait du début à la fin, référence à toute l'histoire de Yosef et ses frères, et qu'il comprend que le Beth Amikdash va être à cheval entre le territoire de Yehuda. Et c'est vrai que la dernière partie, la partie du fond, où il y avait le Kodesh à Kodashim, c'est dans la partie de Binyamin. C'est-à-dire qu'en fait, il était à cheval entre Yehuda et Binyamin. Que ça véhicule quoi comme message? On a posé la question au début, mais quel rapport avec Mizmor chez Chanukah Tabait le David? Si tu parles de toute l'histoire de Youssef, pourquoi tu me parles maintenant du temple? Pourquoi tu annonces, je vais te faire le chant maintenant sur l'inauguration du temple? Voilà, la réponse, elle est très simple. Parce que s'il n'y a plus de famille, il n'y a plus de maison. S'il n'y a plus de maison, il n'y a plus de temple. Pour avoir un temple, il faut avoir un foyer. Il faut que ce temple soit là, l'endroit de rendez-vous de tous les foyers. Mais s'il n'y a plus de foyer, il n'y a pas de raison de faire le temple. Donc, quand David Ameller, c'est extraordinaire, quand David Ameller écrit un mizmor, il se projette dans l'avenir, et il veut écrire quelque chose sur l'inauguration du temple, mais ce qui lui, la première chose qui lui vient à la tête, l'unité de sa famille. C'est le remercier à Kadosh Baruch Hu que grâce à l'intervention de Yehuda, qui est David Ameller, la famille ne s'est pas défaite. Parce que si Yosef était mort, là, la famille serait complètement défaite. Là, il n'y aurait pas eu toute l'histoire qui a été enclenchée par Yosef. Et donc, c'est ça, quand on dit Mizmor, chez Chanukah, Tabait le David, c'est extraordinaire. Hier soir, il y a eu à Bnei Brak une organisation extraordinaire. Un jeune avrer, un jeune kolelman de 26 ans, a organisé un rendez-vous avec 1200 kolelman venant de tout Israël, de Jérusalem, de Beersheba, de Haïfa, pour étudier 3 heures, de 20h à 23h. Et que pendant ces 20h, de 20h pendant ces 3 heures, chacun devait étudier 5 dapim de Gemara, 5 fois recto verso. D'accord ? Généralement, c'était chacun prenait les 5 dapim qu'il connaissait, de façon à ce qu'en l'espace de ces 3 heures, la totalité du chasse, du Talmud entier, a été terminé. En 3 heures, par 1200 personnes, chacun il fait 5 dapim, regarde le compte qu'il a fait. Et il les a payés, en plus, il est parti chercher des donateurs, il leur donne 500 shekels, 100 euros.
C'est beau.
Et tout ça, Leilou Nishmat, Rav Shtelman. Regardez comment c'est... Maintenant, d'accord, il n'a pas fait un événement international, planétaire, mais dans son monde à lui, dans le monde où on étudie la Gemara principalement, il a tenu à faire quelque chose. Et chacun, c'est-à-dire que celui-là, il connaissait mieux Brachot, celui-là, il connaît mieux Svachim, celui-là, il connaît mieux Tmoa, celui-là, Ktuvot. Et il a pris des gens qui étaient différents, qui avaient différentes qualités, et il a su réunir tout ça pour les rendre complémentaires et en faire un événement grandiose. C'est extraordinaire. Là, on peut parler de Baït. C'est extraordinaire. D'accord ? Ça, c'est là, en tout cas. Voilà. C'est, quand on sort de Hanouka, je pense que c'est surtout à ça qu'il faut penser. Parce que les mitiavnim, les fameux juifs qui avaient été influencés par nos ennemis, les Grecs, étaient des gens qui avaient intentionnellement une idéologie d'adhérer, de déshabiller la Torah de sa neshama, de sa partie spirituelle. De vider toute cette partie religieuse et de n'en faire qu'une culture. C'était idéologique. C'est clair qu'aujourd'hui, je pense, surtout en France, en Israël, je ne sais pas, mais surtout en France, quelqu'un qui ne vient pas à la synagogue, qui ne fréquente pas, c'est pas qu'il a, il a pas une idéologie. Il s'est fait bouffer par la vie au début, il était fragile, il n'a pas appris quand il était petit, ça c'est le socle, c'est la base. Et donc à partir de là, on peut pas venir ici et dire ah non, on est neuf, celui-là il est Michal Shabbat, tu peux pas compter. Non, on le voit en plus. Ah, celui-là il descend du bus le Shabbat, je l'ai déjà vu.
Tu casses tout.
On peut pas, c'est pas possible. Il y a plus de baït alors, il y a plus de maison. Si on sort un de nos frères qui vient ici, il y a plus de maison. Bismarck, chez Chanukah, Tabait le David. Donc déjà, je voulais vous faire part de cette petite idée que je pense être fondamentale. Après, ah, peut-être on fait des choses. Après, je voulais partager avec vous. Après, c'est une question que j'ai vue du Rav Zilberstein. C'est une question que je me suis posée depuis des années, à laquelle je n'ai jamais trouvé véritablement de réponse. Et j'ai trouvé la façon du Rav Zilberstein de traiter ce sujet avec énormément de talent. Revenons déjà sur une partie de la paracha. À un moment donné, donc là, c'est la paracha des retrouvailles, Yosef se révèle, et il envoie donc des chars avec, enfin des chars, des carrosses avec des vivres pour son père et plein de signes qui veulent dire énormément de choses, bon, peu importe. En fin de compte, ils préparent leur venue, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas habiter en plein centre-ville, donc il va falloir les mettre à Armentières, d'accord, de côté, de façon à ce qu'ils soient tranquilles. Il leur organise tout. Et de façon à ce que, en fait, quand, lorsque son père descend d'Israël, son père ne va pas au Caire, d'accord, il ne va pas dans la capitale égyptienne. Il va directement à Goshen. Maintenant, c'est Yosef qui va aller retrouver son père. Et le pasouk nous dit à ce propos, « Vayesor Yosef Merkavto ». Donc, il voit que son père était arrivé, Yosef fait atteler son char, « Vayal likrat Israël à vivre, Goshna ». Et il dit donc à son chauffeur, « Allez, on y va pour Goshen, je vais voir mon père. » Vayera Elav, quand il lui est apparu, Vaypol al Tsavara, donc là c'est le moment d'émotion le plus intense. Quand il l'a vu, il dit Vaypol al Tsavara. Il est tombé littéralement sur ses coups, sur le cou de son père. D'imaginer cette relation fusionnelle qu'il avait, pendant 22 ans il n'a pas vu. Vayevk al Tsavara od. Là on a un problème. Il lui tombe sur son cou, il l'embrasse, c'est normal. Il pleure, c'est normal. Mais pourquoi encore ? Vayevk al Tsavarav od. Et il pleure sur le cou de son père, encore. Alors chaque commentateur a sa façon d'interpréter le verset. Ce qui est intéressant ici, c'est le Targum Yonatan. L'élève de Hillel HaZaken, Yonatan Ben Ziel, lui a traduit en araméen de façon beaucoup plus complète. Et regardez bien ce qu'il dit. Vayesor Yosef et Merkavto, Vayal Ikrat Israël Aviv Goshna. Il reprend le verset. Veterem Sheikiro Aviv. Et là, il met son grain de sel. Il dit. Et avant même que son père le reconnaisse, Ela Ra'a et Merkevet Amishne. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr que Yaakov était impatient, donc il attendait à l'extérieur. Et il a vu. Pour vulgariser, il a vu les motards, d'accord, qui accompagnent l'homme politique, arriver devant. Uba sar chashuv les filles ofato au mechal sotav. Il a vu un convoi. Il voit le convoi. Il dit, attends, il y a un type super important qui est en train d'arriver. Ishta havalo aviv. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Comme quelqu'un d'averti. Dans ce monde, il a vécu avec Lavan, il a rencontré son frère Yaakov, son frère Esav, il a eu l'histoire avec Shrem, il connaît le monde. Il voit un ministre en Égypte qui arrive, Ishtachavalo. Yaakov va pour se prosterner. Maintenant, qui y a dans la voiture avec les vitres teintées? Yosef. Maintenant, Yaakov ne savait pas que c'était Yosef dans la voiture. Vene'enash al-kach Yosef, chez Katsrou Shnotav. Yosef a été puni de ce geste de salut que Yaakov, son père, a fait. Parce qu'il n'a vécu que 110 ans. C'est le premier de toute la fratrie qui est mort. Yosef, vous imaginez la scène. Yosef, il est dans sa voiture avec les vitres teintées. Et la voiture donc arrive tout doucement pour se garer. Et il y a Yaakov qui est comme ça. Alors déjà, Yosef, il avait les larmes aux yeux dans la voiture, il était tout excité. Mais il voit son père en train de se prosterner. Il a eu un coup de rasra. Il dit, « Staher al-kach. » Il tzig atzmo, verachan min amerkavalt, et il sort précipitamment de sa voiture. Et il va pleurer encore sur son père. Vous comprenez maintenant le encore? Il pleure parce qu'il n'a pas vu son père, mais il pleure de peine aussi, de souffrance. Regardez, on en est arrivé, mon père, après 22, sans savoir, il se prosterne devant moi, mais quelle honte! Gêné, il pleure de gêne. Il est confus. Et donc, c'est ce que Yonatan Ben Uziel fait comme équation. Il dit, puisque la mitzvah de Kibbud Av V'Em, elle consiste à rallonger les jours de la vie d'un homme, quand il a vu que son père se prosternait devant lui, il a compris que il va partir le premier. Il a été mitztaer sur le manque de Kibbud Av V'Em.
C'est pas de sa faute.
Alors, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Alors, il explique. Le Targum Yonatan, il dit, il aurait dû envoyer quelqu'un de façon anonyme, un envoyé avant lui. Je veux dire, Yosef arrive, qu'il sache que c'est Yosef qui arrive et il n'a pas à se prosterner devant son fils. Mais il n'a pas fait ça. Alors, il a pas, on ne sait pas quand on cherche à l'incriminer, mais on imagine, de par son excitation, il ne veut pas prendre des devants, je ne veux pas envoyer, je ne veux pas faire ça en plusieurs coups, il va direct.
Mais dans ses rêves, ce n'était pas prévu.
Mais dans son rêve, c'était une forme. Mais c'était pas son père. Il n'y avait pas son père. Il y avait l'élément qui représente, le symbole de son père, mais c'est pas son père. La Sheila qui arrive est une lettre qui a été envoyée dans le Rav Zilberstein de la part d'un thérapeute, d'un psychothérapeute exactement, qui fait part au Rav Zilberstein que dans notre ère de nos jours, les psychothérapies sont devenues quelque chose courante. D'accord ? Il ne faut pas faire une dépression nerveuse pour avoir recours à ce genre de service. Aujourd'hui, toute personne qui cherche à se défaire de certains emprisonnements, de certaines dépendances, une certaine tristesse ou certains comportements nerveux, a recours à ce genre de pratique, pas des années. Et donc lui il pratique donc ça et il explique au Rav donc voilà comment ça marche, vous savez, donc un enfant, il a pu vivre des traumatismes durant son enfance, ces traumatismes vont créer chez lui une tension et qui va se répercuter des années après. Donc quand on fait une psychothérapie, alors il y a plusieurs façons de traiter la chose. Alors, déjà bien sûr il faut en parler, mais le fait d'en parler des fois n'est pas suffisant. Alors aujourd'hui ces thérapeutes ont recours par exemple, à l'imaginaire. D'accord ? C'est-à-dire que, voilà, un gamin, il arrive. Dans mon cas, c'était le cas que ce médecin avait. Un gamin qui était très malheureux de par le manque d'affection de son père, ou peut-être, au contraire, une conduite un peu tyrannique de la part de son père, une exigence trop poussée. Et donc, le thérapeute, qu'est-ce qu'il fait? Un des exercices, il peut lui demander, bon, alors voilà, d'accord, imaginons, voilà, t'es petit, reviens en enfance, imagine-toi, comme de l'hypnose. Imagine-toi, t'es petit, machin, voilà, t'es à la maison, toi t'as fait plaisir à ta maman, t'as rangé ta chambre, t'es un gentil garçon, et ton père qui a passé une sale journée au travail, il rentre, et il est très énervé, déjà il rentre, il dit bonjour à personne, il claque la porte, donc tu sens que ça va barder, et il vient, il commence à te crier, quand le thérapeute met en condition le gamin. Pourquoi? Parce qu'il veut que le gamin sorte quelque chose maintenant. Maintenant, vas-y, réponds. Alors, des fois ça se fait, dans le cadre de l'hypnose, ça va se faire verbalement. D'accord, le gamin, ouais, moi je lui dirai ça, et je lui dirai ça, et je lui dirai ça. Ou bien des fois ça se fait à l'écrit. Très souvent aujourd'hui, il y a des traumatismes relationnels qui ont été créés à partir d'une autorité, qu'aujourd'hui l'autorité en question elle n'est plus de ce monde, ou même je ne pourrai jamais lui dire la vérité, elle n'acceptera pas. Un directeur qui a été tyrannique, d'accord, qui a été violent, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Écris une lettre dans laquelle tu lui dis toutes ces vérités. D'accord? Après tu la lis, après tu la brûles. Tu la brûles, après il y en a qui disent je le mets en congélateur, peu importe. Sors tous ces trucs, sors tout ce que tu as. Et donc, Il y avait justement le problème avec un enfant comme ça, qui, c'était pas un enfant gamin, c'était déjà un jeune adulte, mais qui avait de très mauvaises relations avec son père. Et qui dit avoir énormément souffert du trop d'autorité de son père particulièrement. Et donc le médecin demande au Rav Zilberstein, est-ce que, d'après la halakha, on a le droit d'avoir recours à ce genre de pratique? Ou peut-être que ce serait un problème par rapport à la mitzvah de Kibbout Av V'Em. Alors, maintenant, le médecin en question est un Tamid Chacham. Il sait de quoi la Torah parle. Et à un moment donné, il sait très bien que dans les, vous savez, dans la parasha de Kitavo, il y a 11 malédictions avant de rentrer en Israël. Et une de ces malédictions, c'est, en fait, c'est des avertissements. Si vous faites ça, si vous faites ça. Et une des malédictions, c'est Arour Maklé Aviv et Imo. Malheur, malheur.
Celui qui maudit ses parents.
Alors, comme ça, la majorité, beaucoup de traducteurs interprètent. Mais ce n'est pas maudire. Maklé. Maklé, c'est une lachonne cale, une coula, légèreté. Celui qui entretient un comportement léger avec son père et sa mère. Arour. Alors il dit, bon, peut-être que, justement, ça, peut-être que ce n'est pas permis. Donc est-ce que ce gamin, il a le droit, dans le cadre de sa thérapie, de se lâcher, de se lâcher sur son père, sur sa mère, ou, peu importe, sur un de ses parents. Vu l'importance qu'on a l'air d'attacher ici au Kibbout Av V'Em, vadaï que Yosef, à aucun moment, il s'est dit, ah, je vais me faire un kiff, je vais le faire prosterner devant moi, chas v'shalom, vadaï que non. Et pourtant, il y a eu des répercussions à cause de ça. Donc, il dit, en voyant ce genre de commentaires, on peut se poser la question, est-ce que dans le cadre d'une thérapie, on aurait le droit de se soulager à ce niveau-là? Alors, dans un premier temps, déjà, le Rav Zilberstein ramène le Rambam. Le Rambam, dans Hilchot Mamrim, lorsqu'il parle de la mitzvah de Kibbout Av V'Em, parce qu'effectivement, il y a aussi dans Mishpatim, dans Kedoshim, là-bas, on te dit « Make avi ve'imo mot yumat » ou « Mekalel avi ve'imo mot yumat ». On parle de celui qui frappe ses parents ou celui qui maudit ses parents. Motiumat, chayav mita. Il dit le Rambam, velo à la ka'a, velo à la klala bilvadik pida Torah. La Torah n'a pas été exigeante uniquement au niveau d'un coup porté à ses parents ou d'une malédiction dit à leur rencontre. Et la af à la bisayon, même sur le mépris. Je kola mevaze avi veimo, parce que tout celui qui méprise son père ou sa mère, à filou bidvarim, même avec des paroles. À filou birmiza, même avec allusion. À rezé arour mipiagvoura. Dit le Rambam, cette personne est maudite de la bouche d'Hachem directement. Je n'ai marre, arour maklé avi veimo. C'est ça, arour maklé avi veimo. C'est mépriser ses parents par une parole, voire même un signe. Alors maintenant, regardez. Il ramène un commentaire auquel il a très souvent recours, qui s'appelle le Sefer Haredim. Et là-bas, le Sefer Haredim rentre en détail de cette clause à laquelle le Rambam nous ramène ici. Et il dit comme ça. Tsarich aben sheyedame belibo sheorav gdolim venirbade aretz. Écoutez chaque mot. Je me demande s'il ne veut pas le redire à toute la communauté, tellement c'est fondamental. L'enfant doit imaginer dans son cœur, l'enfant, c'est pas le gamin, hein, le fils, la fille, doit imaginer dans son cœur que ses parents, Gdolim, sont des grandes personnalités, venir bede aretz, et des nobles du pays. Vezeu ikar kvodam. Quand la Torah dit kabed et avicha, le principal du kavod, c'est ça. C'est pas à te lever quand il rentre juste uniquement ou quand il monte à la Torah ou quelque chose comme ça. Le ikar du kavod, il est dans le lev. Il est dans le cœur. C'est cette perception. Dire, non, moi, jamais j'arrive à mon père, c'est. Obitor kar vada yechabdem edibor vemaase. Si dans mon cœur, je vois mon père ou ma mère comme des personnalités, automatiquement, au niveau de mes propos et de mes actions, cela ne pourra que suivre. Ce que tu disais tout à l'heure. Ve'alame vazea vivo imo belibo, obidvarim obemaase. Mais celui qui méprise son père ou sa mère dans son cœur, ou avec des paroles, ou avec un acte, che soter divrehem, en les contredisant par exemple, c'est du mépris, contredire ses parents. O yoshev bimkom ameyuchad lahem, s'asseoir à leur place. Neymar arur maklavivimo. Sur ça, la Torah dit que cette personne soit maudite. Ou pire, donc le contraire de la bracha. Il peut faire tous les David Mizmor qu'il veut après, mais ça ne servira à rien. Au Pirchou chez Eno la Chantlala. Et là justement, il dit ma clé, ça ne veut pas dire maudire son père et sa mère. Et là, la Chant Bizayon, c'est mépriser. Au Matsino Bizayon Balev. Et on a déjà vu des versets dans lesquels le mépris se joue au niveau du cœur, c'est au niveau de ma perception de mes parents. Il ramène un pasouk dans Michelet. Alors, Michelet, c'est toujours compliqué à traduire. On va essayer de le déchiffrer ensemble. Ayin tilag le'av vetavuz likatem. Il te dit, un œil qui se moque, qui méprise son père, donc l'œil, pas l'œil, vetavuz likatem et qui méprise les rides de sa mère, yikerua orve nachal, que cet œil soit transpercé par des corbeaux. Veyochlua benenacher. Et que les aigles ou les faucons le dévorent. C'est un passou dans Michelet, c'est pas Midrash. Hein. C'est Shlomo Amelech. Uma se'aya beyamenu. Il finit le Sefer Harid midi. Et il y a eu une histoire à notre époque. Be'ish ayazan etimo. Écoutez bien. D'un homme qui nourrissait sa mère. Il se venait à ses besoins. Mais dans son cœur, il a méprisé. Dans son cœur, au niveau de l'acte, il était là, mais dans son cœur, il a méprisé. Les filles, Shenisset les Ishacher Ramotavi. Pourquoi il l'a méprisé? Il en voulait à sa mère. Pourquoi il en voulait à sa mère? Il dit parce qu'après la mort de son père, elle s'était remariée avec un autre homme. Et il n'a jamais accepté ça. Ah donc, il faisait son devoir de fils, mais dans son cœur, il a méprisé. Ve'aben azé alar derechiam. Et un jour, ce fils a pris le large. Il est parti en voyage. Il est monté sur un bateau. Et il voyage en mer. Ve'neherag. Sur le bateau, il a été tué. Ve'ushlach layam. Il a été jeté à la mer. Chipso ayoudim le kovro. Parce que les juifs ont cherché quand même à retrouver son corps. Ils ont fait des recherches pour retrouver son corps et l'enterrer. Omatsu al sefatayam, et on l'a retrouvé au large d'une plage, jeté, ve'ayinachat menukeret, et un œil crevé, chez Nikro Arvim qui avait été crevé par les oiseaux. Qui rejoint mot à mot le verset dans Michelet.
Ça rigole pas.
Il dit, donc on voit ici, il existe un interdit de mépriser son père, même dans son cœur. Dans son cœur, c'est que ce n'est pas devant lui. Alors, donc on voit qu'on a, c'est non seulement, donc la thérapie, dans le cadre de ça, devient un problème halakhique. Parce que s'il s'agit de se lâcher, d'accord ? Et on ne dit pas que tous les parents on a tous fait des erreurs, ils ont tous fait des erreurs, mais nous, dans notre cœur, on doit les considérer, on doit les percevoir comme des grandes personnes, comme des personnes inaccessibles. Donc maintenant, on va dire que engager un travail dans lequel je vais développer la critique à leur encontre. Pourquoi je suis mal? Bah oui, parce que quand j'étais petit, parce que ça, parce qu'ils m'ont fait ci, parce qu'ils m'ont fait ça. Je vais développer la critique. Donc a priori, ça va complètement à l'encontre de tout ce qui est marqué ici. Je ne veux pas aller chercher leurs défauts. On ne parle même pas maintenant après. Alors, il dit maintenant, c'est vrai que peut-être que dans notre cas, on pourrait dire que le mépris, ce n'est pas un mépris pour mépriser Chas v'Shalom, c'est un mépris pour s'en sortir. C'est comme un peu comme on dit, mekalkel al menat etaken. quelqu'un qui détruit quelque chose, mais pour mieux le reconstruire. Donc peut-être qu'il va effectivement détruire sa perception qu'il a de ses parents, mais tout simplement pour la remettre en place de façon beaucoup plus saine. Donc son but n'est pas de rabaisser ses parents, ni de les mépriser, mais au contraire, d'aboutir à une bonne entente. Alors peut-être que, vu sous cet angle, peut-être on va regarder l'objectif final. Puisque l'objectif, il est de rétablir, alors peut-être que ça serait permis. Même ça, c'est pas évident. Même ça, c'est pas évident. Shulchan Aruch, dans Yoredea Siman Resh même, il dit, si jamais le père de quelqu'un, Dieu nous en préserve, a perdu la raison, d'accord, il faut lui mettre une camisole. Alors c'est interdit pour le fils de lui mettre. Comme ça, il dit. Im nitrefat dato shel ha'av, c'est une halakha, Shulchan Aruch. Vekaya mecheach leosro be'azikim ou be'chavalim. Et il faut ligoter le père, parce qu'il fait du mal, parce qu'il est dangereux. Il est dangereux pour la société. Ou pour lui-même. Loya sezotaben. C'est la même chose pour les piqûres. Un père qui a besoin de piqûres, alors le fils, il ne doit pas lui faire. Ah oui, mais c'est pour sa réfoi. Oui, mais si je fais, s'il fait un hématome.
Il a versé le sang.
Elle a fait un bleu.
C'est comme si on
a maqué. C'est maqué à vie. Alors on n'a pas dit motumat, mais. Alors il dit, il faut dire aux autres de le faire. Donc on voit que, on va dire, allez, même passer par un manque de respect, par ce qui pourrait être perçu comme un manque de respect, mais pour l'arranger, pour le protéger, même ça, on n'a pas le droit de faire. Donc a priori, cet argument de dire, il va mépriser son père pour mieux l'aimer, pour avoir de meilleures relations avec lui, ça passe pas, ça marche pas. Alors, ce qu'il nous reste, il nous reste une carte. La carte de Mechila. Il y a une halakha dans la Gemara qui dit Av, shemachal al kvodo kvodo macho. Un père qui a laissé son enfant s'asseoir à sa place, qui lui a permis de ne pas se lever. Machal, il renonce au kavod qui lui est dû par son fils. Kvodo macho. Contrairement à un roi, d'accord, c'est pas son kavod qui est, on en avait parlé déjà plusieurs fois, mais un père peut être mochel sur son kavod. Sauf que, bon, il y a un commentateur de l'époque de Rishonim qui dit, le ribash, il disait comme ça. Il dit, dans quel cas la Gemara, elle a dit qu'un père qui pardonne, son pardon est validé, c'est uniquement dans le cas où il s'agit de ne pas se lever devant lui ou de s'asseoir à sa place, qui ne sont pas c'est un manque de kavod, voilà. C'est un manque de kavod. Av shemachal al kvodo. Pardon. Mais c'est pas un bisayon. C'est-à-dire, si quelqu'un il vient, il dit à son père, bon, je vais faire une thérapie, mais sûrement, donc là-bas, je vais t'allumer, mais t'as compris que c'est.
C'est pour ton bien.
C'est pour notre bien.
Oui, il y a tout à l'heure.
Et là, il dit, le ribash, il veut dire, sur ça, on n'a jamais dit « Av shemachal al bizyono ». Ce n'est pas marqué un père qui a renoncé au mépris. Il a pas renoncé au mépris. Il a renoncé en manque de kavod. Un surplus qu'on ne lui a pas fait, qu'on lui doit. Alors, sur ça, il a renoncé. Mais il n'a pas renoncé, il n'a pas accès, il n'a jamais... Renoncé à son kavod, ça ne veut pas dire accepter d'être méprisé. Comme ça, le ribash, il veut dire, malgré que de la Gemara dans Kiddushin, ça ressort pas comme ça. La Gemara dans Kiddushin d'Aflamet Bet, elle dit qu'il y avait Ravuna. Ravuna était le père de Rabba. Donc un illustre personnage de la Gemara. Et Ravuna, un jour, justement, c'était en réunion avec des Talmidei Chachamim. Et Ravuna avait un beau manteau en soie, comme ça on dit, Beget Shel Meshi. Et en pleine réunion, Ravuna se met à déchirer son habit. Comme si il était en train de traverser une crise de folie. Alors qu'en vérité, il n'en était rien du tout. Il a juste fait ça pour voir comment son fils allait réagir. Il voulait voir si son fils, il allait manquer de respect à son père. « Oh papa, mais t'exagères, non, mais qu'est-ce que tu fais ?» Ou s'il allait se mettre de côté, il allait rien dire. Et donc, a priori, ce qui ressort de cette Gemara, c'est que c'est Av Shemachal al Kvodo, Kvodo Machul, C'est-à-dire quand il l'a fait, il a fait. Même si jamais il me manque de respect, je le pardonne. D'accord. Même s'il me dit arrête, il le met à l'épreuve. Donc le but, c'est juste ça, c'est de voir quelle va être sa réaction. Mais c'est clair que s'il avait pas eu la réaction la plus noble, il aurait été mochel. Donc on voit de cette Gemara que la Mechila, elle ne marche pas seulement sur un manque de kavod, mais même sur un mépris. Parce que là-bas, il s'agissait de mépris. Donc ce n'est pas comme le Ribashi dit. En tout cas, donc, juste pour finir, il dit par contre, voilà, il y a une chose. Donc, on a essayé un peu toutes les pistes, c'est très difficile. C'est très difficile d'envisager ça. Il y a une seule chose qui pourrait éventuellement être concevable, c'est plus qu'une demande de permission. C'est-à-dire que l'enfant, avant d'entamer ce genre de travail, demande à son père. Voilà, c'est très bien qu'on a des relations tendues, je voudrais me sortir de là, voilà, je vais faire un travail. Ah mon fils, vas-y, vas-y. Si lui dit vas-y, alors là c'est pas juste une mechila. D'accord, c'est activement, il veut améliorer nos relations, il souffre aussi de ça. Et donc a priori, à partir de là, ça serait éventuellement permis. Mais en dehors, on va dire, de cet état d'esprit, c'est-à-dire déjà de permission et plus que la permission, c'est carrément l'encouragement. Si on n'a pas l'encouragement de son père, ça serait un problème. Ouais, ça serait compliqué de. Il y a toutes sortes de travail. Je sais pas, après. Bon, il y en a qui font physiquement, il y en a même qui ils vont donner une sorte de. Je sais pas, une couverture, une poupée, un autre. Vas-y, maintenant tu frappes, maintenant tu réagis comme tu aurais voulu, etc. Vas-y. Bon, après, si c'est juste écrire quelque chose, je sais pas où ça s'arrête. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir qu'il abordait ce sujet. Et juste pour finir avec une petite anecdote qui n'a peut-être rien à voir directement avec l'équipe d'Avem, mais qui a un rapport avec la première partie du Shiur. J'ai lu justement sur le Rav de Ponyovitch. Un jour, il y avait un mariage d'un de ses élèves à Haïfa. Donc généralement, dans des yeshivotes comme ça, 1200 élèves, t'as pas toute la yeshiva qui se déplace au mariage. Le mec, il invite ses potes, mais généralement, c'est déjà 50-60 personnes. Et quand le Rav arrive au mariage, il voit comme ça devant l'entrée un beau gosse avec un beau chapeau, un beau costume. Maintenant, quand tu brasses comme ça des milliers d'élèves et que tu as la tête avec les dettes et comment je vais truquer, les voyages. Le Rav, il était persuadé que le premier bahour, le beau gosse qu'il a vu à l'entrée, c'est le Khatan. Il était persuadé que c'était le Khatan. Donc il est tombé dans la voie, il l'a enlacé. Alors, chez les Ashkenazim, moi-même chez certains Sfaradim, quand on se voit dans une simcha, on se dit Mazal Tov, on ne dit pas Mazal Tov uniquement au marié, à la mariée ou aux parents de la mariée. On se dit tous Mazal Tov, on est dans une bonne occasion, bonne chance à tout le monde. D'accord ? Bon, alors il a dit Mazal Tov, mais il l'embrasse vraiment chaleureusement, il ne lui lâche pas la main, il lui fait plein de brachot. Et le bachour, bon, très bien, moi. Je dis, oui, tu fais une brache comme ça, c'est magnifique. Et au bout de quelques secondes, le Rosh Yeshiva s'aperçoit qu'il a fait une boulette. Et que il n'a pas le khatan devant lui. Parce qu'il tourne, en train de faire les brachot, il tourne et il voit un attroupement autour du vrai khatan. Et là, il se dit, mince, mais comment je vais rattraper le coup? Parce que. C'est honteux, c'est-à-dire lui il voit que je l'ai pris pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que je ne le considère pas assez. Mais comment je vais faire? Comment je vais me sortir de cette bourde? C'est pas tellement vis-à-vis de l'élève, bon, tant mieux, je l'ai embrassé, je lui ai fait plein de brachot. Mais c'est vis-à-vis de lui, il m'a vu maintenant l'embrasser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la salle. Il a pris chaque bachour qu'il a rencontré sur le chemin, il le prenait. Il a...
Eh oui, ça couvre.
C'est fort.
Mais voilà, c'est dans le cadre de ce qu'on disait tout à l'heure, cette unité, cette impossibilité d'imaginer de gêner quelqu'un. Voilà, les vrais gdolim, c'est ça, les vrais gdolim. Vous ne pouvez pas imaginer laissé croire le Khatan qu'il s'était trompé sur son compte. Alors pour ça, il va se taper des embrassades avec tous les Bahourim qu'il va rencontrer sur le chemin jusqu'à qu'il arrive au Khatan. Normalement, c'était aujourd'hui, c'était sa façon du jour de saluer ses Bahourim.